Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, nous allons parler de Sanofi. Alors Sanofi, c'est un géant de l'industrie pharmaceutique d'origine française. Et pour en parler, eh bien, j'ai la chance d'avoir avec moi au bout du fil Christophe Chrétien, qui est délégué syndical central chez Sanofi. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis délégué syndical central CGT chez Sanofi. Pour être plus précis, chez Sanofi Winthrop Industries, c'est l'entreprise du groupe Sanofi qui produit les médicaments et qui les distribue, qui les emmène vers les officines pharmaceutiques ou chez les grossistes. Et ça fait, on va dire, un peu plus de 30 ans que j'y travaille.
Donc, voilà. C'est la personne qu'il nous faut. Et donc, une première question pour Christophe, de nous rappeler ou de nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, d'où sort cette entreprise Sanofi et que représente-t-elle en France, tant sur le marché qu'en termes d'emploi? C'est la première question.
Voilà. Alors, Sanofi, pour ceux qui ne savent pas, ça remonte au début des années 70, à vrai dire, lors du premier choc pétrolier. Des personnes qui travaillaient pour Elf Aquitaine, une entreprise nationalisée, voulaient créer une entreprise pour pouvoir contrer ce choc pétrolier, justement. Et donc, il a été créé une entreprise qui s'appelait Sanofi. À vrai dire, au départ, c'était Omnium Financier pour l'hygiène et la santé. Un Omnium, c'est une holding, en fin de compte. Et dans cette entreprise, elle n'a fait que croître depuis des années en rachetant tout un tas de petites entreprises. Il faut dire que dans les années 70, l'industrie pharmaceutique était composée de petites PME. Il n'y avait pas d'industrie pharmaceutique, à vrai dire, comme pour l'automobile ou la sidérurgie ou le textile. Voilà. Historiquement, les très gros actionnaires de Sanofi sont L'Oréal et Total. Total, maintenant, n'a plus de part, mais il a encore L'Oréal. L'Oréal, c'est la famille Bettencourt. Sanofi, qu'est-ce que ça représente? Sanofi, c'est une entreprise d'origine française qui est maintenant internationale. Se situe, pour donner un ordre d'idée, entre 3e et 4e rang mondial au niveau de la pharmacie. C'est une entreprise des plus profitables en France. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les officines, ça représente à peu près une boîte sur 6. En France, c'est 25 000 personnes qui travaillent pour Sanofi directement. D'accord. Dans le monde, c'est un peu plus de 100 000. Mais il faut savoir que sur la production, 40% de la production mondiale de Sanofi est faite en France, mais elle est exportée. Hein. En France, il y a 22 sites industriels.
Donc c'est une entreprise qui est une des toutes premières au rang mondial et qui à l'origine, c'était Elf et Total où il y avait des capitaux d'État. Oui. Donc c'est ma deuxième question. Est-ce que l'État a toujours un rôle d'actionnariat et si c'est le cas, est-ce qu'il joue finalement son rôle dans l'intérêt de la population ou c'est désormais une entreprise entièrement dans les mains du privé?
Voilà. Eh ben, actuellement, l'État n'a plus aucune participation dans cette entreprise. Tout est aux mains du privé. Malheureusement le problème. Faut bien comprendre. Hein, c'est ce que j'expliquais avant. C'est une entreprise privée qui a été créée avec l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent de nos impôts. Et donc, l'État ne joue plus aucun rôle dans l'intérêt de la population. Mais il aurait quand même le pouvoir d'imposer certaines choses, puisque c'est, en France en tout cas, l'État qui autorise la mise sur le marché des médicaments et qui négocie les prix. Donc, il pourrait avoir son mot à dire. Mais malheureusement, nous voyons qu'il ne l'a pas très clairement.
D'accord, donc tu as bien résumé, de l'argent public pour créer une grosse entreprise, très grosse, puisqu'une une des premières mondiales,
oui.
Où finalement c'est les actionnaires qui pilotent. Alors, une question de Candide, avec un pareil groupe industriel et de recherche, hein, des tout premiers au monde, comment se fait-il que Sanofi ne soit pas capable, alors capable, c'est peut-être pas le mot qui convient, de proposer un vaccin contre le Covid ?
Voilà. Alors, pour le vaccin que le Covid, forcément, c'est d'actualité, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment un problème chez Sanofi, comme dans d'autres grosses entreprises. Alors, Sanofi, c'est effectivement un des leaders mondiaux des vaccins vendus dans le monde. Il n'en reste pas moins que c'est une société qui a du mal à prendre des axes clairs de recherche. Parce que la R&D, depuis de nombreuses années, depuis environ, ça a commencé vers 2008-2009, depuis de nombreuses années, eh ben la recherche est malmenée. Elle est détruite au sein de Sanofi. Ce qui fait qu'on n'a plus les équipes pour y travailler correctement et tout. De plus, Sanofi n'a pas tellement a eu un petit retard à l'allumage, n'a pas tellement cru à cette pandémie. Et ce que je veux bien expliquer, ce qui est important, et dans le fait qu'on n'a plus assez de chercheurs en interne, on a sous-traité des réactifs de dosage qui autrefois, enfin voilà. En plus, on a fait sous-traiter une partie de notre recherche par rapport au vaccin Covid, et en fin de compte, il y a eu une erreur. Une erreur de dosage qui, voilà, c'est un concours de circonstances, mais c'est bien le résultat d'une destruction de capacités de recherche, de moyens humains, de moyens financiers, de moyens de locaux, qui est mis en place depuis plus de 15 ans et qui a été dénoncé maintes fois, à la fois par la Fédération nationale des industries chimiques, CGT, et par les syndicats de Sanofi.
Alors j'ai vu passer dans la presse il y a quelques semaines que on parlait de 400 suppressions d'emplois. Est-ce que c'est exact précisément chez Sanofi dans la recherche, ce qui paraît ahurissant dans la période. Est-ce que c'est ça?
Oui. Alors c'est même peut-être un peu plus. C'est à minima 400 postes de recherche qui disparaissent cette année. Il y a en plus un site qui se trouve actuellement à Strasbourg qui doit fermer, qui fermera si Sanofi tient ses objectifs en 2022. Mais en même temps, c'est l'abandon de tout un tas d'axes thérapeutiques qui sont à l'ordre du jour. Il faut bien comprendre que, par exemple, pour vous situer, en 2009, il y avait à peu près 6300 personnes qui travaillaient en recherche en France. Actuellement, ils sont plus que 3300, c'est-à-dire que quasiment la moitié a disparu. Par contre, Sanofi continue à toucher les crédits impôts recherche, c'est quand même un comble, pour quelqu'un qui détruit sa recherche, mais c'est à peu près 130 millions par an qui touchent de crédit impôt recherche. Voilà. Ils ont même également la volonté d'arrêter ou de vendre 200 familles de produits, dont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Mais il n'y a pas que dans la recherche, dans la production, dans la distribution également. Voilà.
Alors si je comprends je comprends bien la motivation de Sanofi, donc on voit une politique de créneau qui se dessine, donc c'est la boussole, c'est la santé ou c'est la rémunération des actionnaires, pour le dire brutalement?
Pour le dire brutalement, c'est le versement de dividendes, c'est très clair, on le voit, il y a une... Ça fait un moment que c'est une entreprise qui qui doit verser des dividendes, qui veut toujours être plus profitable. Mais là, il y a une explosion, une accélération, si je veux dire, voilà. Sanofi, qu'un seul but, c'est de verser de plus en plus de dividendes à ses actionnaires. D'ailleurs, ils l'ont annoncé. Actuellement, ils veulent une marge de 26% en 2020, qui serait montée à 33% en 2025. Et voilà, c'est-à-dire on marche sur la tête. Pour vous donner un exemple, le PDG de Sanofi, il est rémunéré non pas au nombre de médicaments qu'il va trouver ou au nombre de personnes qu'il va soigner, il sera mieux rémunéré s'il donne plus de dividendes aux actionnaires. C'est ça son but.
C'est voilà, la boussole en quelque sorte.
Voilà, c'est la boussole, mais une mauvaise boussole qui a perdu le nord.
Alors, la suite finalement de ce triste constat, c'est qu'il y a un certain nombre d'organisations, alors la CGT, mais pas seulement, il y a même une pétition qui réclame que la santé ne soit pas une marchandise, parce qu'il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique, bien sûr, et qu'il faut, entre autres, que Sanofi retourne vers un pôle public, comme ça a été l'idée il y a quelques décennies, un pôle public au service de l'intérêt général. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ?
Oui, effectivement. Faut regarder la situation en face et on le voit bien actuellement avec la crise dite du Covid sanitaire, que plus rien ne fonctionne, et c'est pas normal. La France et pas que la France, c'est un pays très très riche et donc le constat est incontournable. Il faut créer un pôle public de santé qui intègre à la fois les entreprises de santé qui sont Sanofi, mais aussi l'hôpital. C'est la seule solution. Parce que tant qu'une entreprise privée va créer les médicaments qu'elle veut, avec le prix qu'elle veut pour les marchés qu'elle souhaite, c'est pas une réponse de santé. Il y a des accès thérapeutiques. On abandonne, par exemple, les antibiotiques. Plus personne ne fait d'antibiotiques. Donc, il faut bien. Dans la santé, dans l'hôpital, on voit bien qu'il y a un manque de personnel, un manque de lits. Et il y a des ruptures de médicaments. Tous les auditeurs, à mon avis, connaissent ce problème. C'est vraiment un fléau. Et donc, il faut bien se dire que la santé comme l'eau, l'énergie, la nourriture, c'est un bien public et que ça peut pas être là uniquement pour faire de l'argent. C'est là pour soigner des gens. Et c'est aussi simple que ça.
Alors, est-ce que je peux essayer d'imaginer que sans ce type de politique, de mauvaise politique en matière de santé, si on en était resté à une idée qui est pas si nouvelle, d'un pôle public de santé véritable, est-ce qu'on peut dire qu'on serait pas dans cette situation de désastre sanitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui ?
Mais bien sûr, c'est l'évidence même. Par exemple, pour le Covid, sur le SRAS, à l'origine du Covid. Il y a plus de 15 ans, il y avait des recherches sur ces virus. Il y avait des recherches fondamentales pour pouvoir prévoir, anticiper, être capable de produire, mais pas seulement que des vaccins, des axes thérapeutiques, des médicaments, soit des comprimés, etc., qui étaient à même de répondre aux besoins de santé. Et donc tout ça, ça a été abandonné parce que c'était pas rentable. Et on peut pas envisager la santé comme étant quelque chose qui doit produire et qui doit rapporter à très court terme de l'argent. Là, c'est complexe, on est bien d'accord, c'est complexe, mais la recherche fondamentale doit permettre d'avoir des connaissances et de pouvoir réagir rapidement et faire face à ce genre de situation, justement.
Alors Christophe, je pense que tu as été très clair sur les explications, donc je vais te remercier pour cette chronique qui est assez brève, mais je pense que l'essentiel a été dit. Donc avant de te quitter, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Et puis sinon, on va se contenter de ces dizaines de minutes qui ont été néanmoins très intéressantes. Donc je te laisse le mot de la fin.
Eh ben, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien prendre conscience que actuellement, et ça c'est un débat public qu'on doit avoir, et une réflexion collective pour notre avenir à tous, pour notre bien à tous. Hein, tant qu'il y aura, par exemple, pour les vaccins, tant que le système de brevets protégera la propriété privée plutôt que la santé des citoyens, ben moi j'estime qu'on marchera sur la tête. Le médicament, comme je l'ai déjà dit, comme l'eau, l'énergie, l'accès à la nourriture, eh ben c'est pas un bien marchand, une propriété d'une entreprise qui ne l'octroie qu'en fonction du prix à payer, décidant quoi, qu'est-ce qu'elle fabrique, pour qui, quel médicament. Le médicament, c'est un bien commun de l'humanité, et tout à chacun sur la planète doit y avoir accès s'il en a. S'il en a le besoin et non pas s'il en a les moyens. Voilà.
Eh bien, Christophe, on va s'arrêter là. Je pense que ça a été particulièrement démonstratif et éclairant. Et je te remercie encore et je rends l'antenne, comme on disait dans le temps, de cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail. Merci à toi.
Merci. Au revoir.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.